monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du jeudi 19 mars 2020. Abdourahman Dia à la présentation, voici les titres. La mission de l'ONU au Mali rend son rapport d'enquête sur les violences en février dans le village d'Ogossabou, dans le centre. Une ONG porte plainte contre le Burundi auprès du comité de l'ONU contre la torture. L'épidémie de Covid-19 fait plus de 9000 morts dans le monde. L'OMS souhaite la mise en place de couloirs humanitaires pour aider l'Afrique à faire face à la pandémie. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. La mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA et le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme ont publié les conclusions de la mission d'enquête spéciale sur le massacre de 35 personnes le 15 février dernier à Ogossagou dans la région de Mopti. Le rapport encourage le gouvernement malien, particulièrement les instances judiciaires nationales, à user de leur devoir de diligence afin que les auteurs ne restent pas impunis. Kassim Traoré.
Au terme de cette mission d'enquête, la MINUSMA est en mesure de conclure que le 14 février vers 5h du matin, plusieurs dizaines d'individus, dont certains identifiés comme des chasseurs traditionnels, appuyés par des hommes en tenue militaire et des membres présumés de la communauté d'Ogon, ont conduit une attaque vraisemblablement planifiée et ciblant la partie du village Ogossagou habité par les membres de la communauté Pil. Les assaillants, selon l'enquête, étaient munis de fusils automatiques, de fusils traditionnels de chasse et de machettes. Ils ont exécuté au moins 35 personnes, toutes des membres de la communauté Pil. L'enquête ajoute qu'au moins 19 personnes, dont 5 enfants, sont toujours portées disparues depuis l'attaque. Pour les enquêteurs, ce sont des graves atteintes aux droits de l'homme qui pourraient également être qualifiées de crimes contre l'humanité. Les conclusions de cette enquête spéciale ont été partagées par les ministères des Affaires étrangères et de la coopération internationale, celui de la Défense et des anciens combattants, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, ainsi que l'état-major général des armées du Mali, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Mali toujours, les législatives sont à ce jour maintenues fin mars et en avril malgré la pandémie du coronavirus, a indiqué ce jeudi le premier ministre Boubou Cissé. Pour les questions de survie de la nation et de continuité de l'État, à ce jour nous avons décidé de maintenir la tenue des élections législatives, a-t-il déclaré en conférence de presse. Aucun cas de coronavirus n'a encore été déclaré au Mali, qui a cependant pris des dispositions comme la suspension des liaisons aériennes avec les pays touchés et fermer les écoles. Le premier tour des législatives est prévu le 29 mars et le second tour le 19 avril. Ces élections ont été repoussées à différentes reprises en raison notamment de la profonde crise sécuritaire que traverse le Mali depuis 2012. Nous reviendrons sur le nouveau coronavirus avec les dernières nouvelles sur la pandémie dans quelques minutes, mais aussi en partie magazine avec des analyses et reportages. L'ONG Service international pour les droits de l'homme a indiqué ce jeudi avoir déposé une plainte contre le Burundi auprès du comité de l'ONU contre la torture au nom de 4 avocats burundais. Les précisions avec Ekiabadou.
Dans un communiqué, l'ONG explique qu'elle réclame justice et réparation pour ces 4 avocats burundais qui avaient été radiés, suspendus du barreau et menacés par les autorités après avoir communiqué en 2016 au comité contre la torture des informations sur l'état des droits humains dans le pays. Dans cette affaire, les avocats Dieudonné Bachir Aïchiré, Armel Nyongere, Vital Chimirimana et Lambert Nigurura ont œuvré à répertorier les cas de torture, de disparition forcée et de détention arbitraire dans le pays, y compris pendant les manifestations de 2015 contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, selon l'ISHR. De telles représailles constituent une violation de la Convention contre la torture, a déclaré Madeleine Sinclair, avocate auprès de l'ONG, dans un communiqué. L'article 13 de ce texte garantit aux victimes de torture une protection contre les représailles lorsqu'elles soumettent des preuves au comité contre la torture, précise l'ISHR. De plus, les victimes et leurs familles ont fait l'objet de menaces, se sont vues confisquer leurs biens et propriétés et ont été forcées à l'exil, a-t-elle expliqué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'épidémie du nouveau coronavirus continue sa progression en Afrique, poussant plus de pays à prendre des mesures de restriction. L'OMS suggère la mise en place d'un couloir humanitaire pour le continent. Le point avec Jacques Aristide.
Le Burkina, qui a enregistré hier le premier décès en Afrique subsaharienne, compte désormais 3 foyers, d'après le coordonnateur national contre le coronavirus. Martial Ouédraogo fait état de 33 cas confirmés, bilan établi hier soir. Il s'agit de 15 hommes et 18 femmes. Pour le professeur Ouédraogo, l'évolution de la contagion se fait en dents de scie. On ne peut pas parler de régression des cas. Il convient de rester prudent, dit-il. Du côté de la République démocratique du Congo, la maladie touche, selon le bilan officiel, 14 personnes dans la capitale, la Kinshasa, dont 7 nouveaux cas annoncés hier, notamment une première contamination qualifiée d'autochtone, une infirmière dans un service d'urgence. « Nous ne sommes qu'au début de cette pandémie », a prévenu le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, en annonçant la suspension jusqu'à nouvel ordre, dès ce vendredi, de tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Le président a également annoncé des mesures préventives, dont la fermeture des écoles et des universités pour 4 semaines, des discothèques, bars et restaurants, de même que la suspension de tous les cultes à partir de ce jeudi. En République du Congo voisine, 2 nouveaux cas, soit 3 au total, ont été annoncés hier par le Premier ministre, tous 2 en provenance de Paris. Brazzaville annonce également une suspension à partir de ce jeudi de tous les vols en provenance des pays à haut risque.
Le nouveau coronavirus qui a émergé en Chine fin 2019 a déjà fait plus de 200 000 cas confirmés dans le monde et tué plus de 9 000 personnes. Les mesures les plus drastiques se multiplient pour tenter de freiner sa progression. Claire Morin-Jubourg.
Alors que les chiffres sont en hausse permanente depuis des semaines maintenant, un cap symbolique a été franchi aujourd'hui. Il n'y a eu aucune contamination locale en Chine. Les autorités sanitaires ont néanmoins fait état de 34 cas importés supplémentaires. L'Europe est le continent où la pandémie progresse le plus rapidement. L'Italie a enregistré hier 475 décès en 24 heures, le plus grave bilan quotidien dans un seul pays. Les mesures de confinement prises depuis une semaine dans le pays seront prolongées à leur échéance le 3 avril, a d'ores et déjà annoncé le gouvernement. Le Portugal a décrété l'état d'urgence et en Autriche, toute la province du Tyrol est placée en quarantaine. La Banque centrale européenne a annoncé un plan d'urgence de 750 milliards d'euros destiné à des rachats de dettes publiques et privées. Les bourses européennes ont réagi en rebondissant. Sur le continent américain, le Panama, la Bolivie et le Pérou ont décrété le couvre-feu. Aux États-Unis, le Congrès a adopté un plan d'aide sociale d'environ 100 milliards de dollars destiné aux travailleurs directement touchés par l'impact du coronavirus. Les constructeurs automobiles General Motors, Ford et Fiat Chrysler ont suspendu leur production jusqu'au 30 mars au moins. Les élus et la Maison-Blanche négocient un gigantesque plan de relance économique qui pourrait aller jusqu'à 1300 milliards de dollars.
La pandémie du coronavirus va avoir des conséquences économiques très importantes sur les budgets de défense des alliés, mais l'OTAN reste capable de faire face à toutes les menaces, a assuré ce jeudi son chef Jens Stoltenberg. Les pays de l'OTAN se sont engagés à consacrer 2% de leur PIB à leurs dépenses de défense en 2024. 9 ont déjà atteint cet objectif en 2019 et ce sujet est à l'ordre du jour de toutes les réunions de l'Alliance. Jens Stoltenberg a par ailleurs dit espérer être en mesure d'organiser la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance prévue les 2 et 3 avril à Bruxelles. Mais aucune décision définitive n'a été prise sur la manière de mener cette réunion, a-t-il indiqué. Un premier hôtel de Madrid a été transformé ce jeudi en structure médicalisée afin de traiter les cas les moins graves du coronavirus ne requérant pas d'hospitalisation. Cela permettra d'alléger la pression dans les hôpitaux et d'y libérer des chambres, a fait savoir la région de Madrid dans un communiqué. Le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, 69 ans, a annoncé avoir été testé positif au coronavirus, mais s'est montré rassurant sur son état de santé dans une vidéo postée jeudi sur Twitter. L'Iran s'apprête à libérer environ 10 000 détenus à l'occasion d'une grâce accordée pour le nouvel an iranien prévu demain vendredi. Cette mesure a été prise par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, sur requête du pouvoir judiciaire compte tenu de la situation sensible dans le pays, selon les autorités, sans faire explicitement référence à la pandémie du nouveau coronavirus. L'Iran est l'un des pays les plus touchés au monde.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
Les banques kenyanes autoriseront les clients qui rencontrent des difficultés en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus à prolonger leurs prêts jusqu'à un an. Nous ne voulons pas que cette crise sanitaire devienne une crise financière, a déclaré Patrick Njoroge, le gouverneur de la Banque centrale, lors d'une conférence de presse télévisée citée par Reuters. Les petites et moyennes entreprises qui rencontrent des difficultés seront également autorisées à restructurer leurs prêts bancaires sans frais. South African Airways a annulé ce mercredi, et ce jusqu'à la fin de ce mois, 162 vols internationaux et régionaux en raison de la faible demande et des restrictions liées au coronavirus. Selon Reuters, le président Cyril Ramaphosa a annoncé des interdictions de voyager vers plusieurs pays desservis par la compagnie aérienne sud-africaine comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Pour terminer, le constructeur automobile allemand BMW a annoncé ce mercredi qu'il fermera les usines européennes et sud-africaines représentant la moitié de sa production pendant un mois à cause du coronavirus. Les usines de BMW en Europe, combinées à l'Afrique du Sud, représentaient la moitié des 2,56 millions de voitures construites par le groupe en 2019.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
La série des suspensions de championnats de football se poursuit sur le continent.
Oui, avec deux cas confirmés de Covid-19, la Fédération béninoise de football a décidé de suspendre pour 2 semaines toutes ses compétitions à compter de la semaine prochaine. Claude Paqui, secrétaire général de la Fédération béninoise de football.
Pour respecter les décisions ou les directives données par le gouvernement, il fallait décider de la suspension de nos différents championnats, ce qui est fait. On constatera peut-être que les matchs qui n'ont pas été joués pendant la période de suspension seront des matchs en retard, simplement.
Claude Paqui, secrétaire général de la Fédération béninoise de football, au micro d'Élisée Mpatine, notre correspondant à Boïcon. La Fédération malienne de football a aussi annoncé la suspension de toutes ses compétitions jusqu'à nouvel ordre. Bien qu'il n'y a pas encore de cas de coronavirus signalé au Mali jusqu'ici, les précisions avec Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Les activités sportives au Mali sont interdites par les mesures prises lors du Conseil extraordinaire de la Défense nationale, puisque dans son communiqué du mardi dernier, le Conseil extraordinaire présidé par le président de la République interdit les regroupements à caractère social, sportif, culturel et politique de plus de 50 personnes jusqu'à nouvel ordre sous réserve du respect des gestes barrières. Et qui parle des sports parle forcément des regroupements. C'est pourquoi le département des sports a donné l'alerte. Dans un communiqué, le ministère des Sports a pris la décision de la fermeture jusqu'à nouvel ordre de tous les stades et toutes les infrastructures sportives, socio-éducatives, publiques à travers le pays. Le comité exécutif de la Fédération malienne de football, la Fédération malienne de basketball ont tour à tour suspendu toutes leurs activités jusqu'à nouvel ordre. Siaka Traoré, Bamako pour VOA Afrique.
Le Nigeria a aussi arrêté ses activités sportives. La participation aux compétitions internationales est suspendue, tout comme les tournois de qualification olympique, lit-on dans un communiqué du ministère des Sports.
La Grèce transmet la flamme olympique aux organisateurs japonais des JO sans public.
Oui, la cérémonie de transmission de la flamme olympique des JO Tokyo 2020 s'est faite dans un stade d'Athènes vide en raison de la pandémie de coronavirus. Seule une poignée de journalistes a été autorisée à couvrir la cérémonie traditionnelle dans l'enceinte où se sont tenus les premiers Jeux en 1896. Le champion olympique de gymnastique Lefteris Petrounias a passé la flamme à la représentante de Tokyo 2020, Naoko Imoto, nageuse aux Jeux d'Atlanta en 1996 et représentante de l'UNICEF. Les organisateurs japonais auraient fait appel à elle à la dernière minute car elle vit en Grèce, sur le maintien des Jeux prévus du 24 juillet au 9 août prochain. Le CIO a estimé mardi qu'il n'était pas nécessaire de prendre de décision radicale à 4 mois des Jeux Olympiques.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. La mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, a rendu son rapport d'enquête sur le massacre en février dernier d'au moins 35 membres de la communauté Peul d'Ogossagou. Le rapport note que cette communauté était vraisemblablement ciblée et certains des auteurs présumés de ce massacre ont été identifiés comme étant des chasseurs traditionnels appuyés par des hommes en tenue militaire. Pour une réaction à ce rapport, Timothée Donangbaye a joint à Bamako notre confrère Nouhoum Togo.
Comme vous le savez, il y a eu Ogossagou 1, il y a eu Ogossagou 2. Ogossagou 2, parce que d'abord, il y avait les militaires qui étaient là pour garder Ogossagou. Ils ont quitté le lieu le même jour, il y a eu cette attaque-là. Aujourd'hui, c'est que si l'administration a fait ce rapport, je pense que c'est une bonne chose. Qu'on fasse des enquêtes sur beaucoup de ce cas-là qui s'est passé en République du Mali. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'attaques, que ce soit au Ogossagou 1, au Ogossagou 2, dans cette localité. Dans la semaine, même, il y a eu l'attaque sur Kurkanda, où il y a eu à peu près des morts aussi. Nous pensons qu'il est bon que l'enquête continue. Mais la question que je me pose, est-ce que le gouvernement de la République du Mali a été impliqué? Et s'ils n'ont pas été impliqués, il est bon de les impliquer en même temps. S'ils ont été appliqués, il est bon qu'ils prennent ces rapports-là pour travailler sur ces rapports et les responsables qui sont aujourd'hui cités répondent de leurs actes.
Que fait justement le gouvernement malien par rapport à cette situation de Ogossagou?
Bon, vous savez, ça a été un peu très difficile parce que le gouvernement, devant l'opinion nationale et internationale, a rassuré d'abord la population de Ogossagou pour dire qu'il n'y aura plus Ogossagou 2. Le président de la République, personnellement, il a pris la parole devant la population pour s'adresser au chef d'état-major général pour dire qu'il n'y a plus de Ogossagou 2. Mais avec tout ça, compte tenu de la gestion, il y a eu ce problème parce que déjà, le problème de relève, a posé problème. Les militaires ont quitté le lieu, il y a eu Ogossagou 2. Maintenant, il est bon aussi qu'au niveau des forces armées, au niveau du gouvernement, on puisse soutenir la responsabilité qui a ordonné le départ des forces armées. Pourquoi ça s'est passé? Donc, il y a une responsabilité à soutenir. À l'autre niveau aussi, ce qu'il faut se dire concernant l'armement et aussi dans la mission de sécuriser la population malienne, qu'est-ce que concrètement s'est passé? Parce que pour moi, ce n'est pas seulement l'enquête, mais avant l'enquête, on pouvait prendre des décisions, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'administration, ces décisions n'ont pas été prises. Ce qui nous a poussé, ce qui a poussé la population à subir donc, ce qui s'est passé exactement. Donc nous pensons aujourd'hui à condamner au niveau du gouvernement de la République et en même temps au niveau de la ministre.
C'était le journaliste Nouhoum Togo à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Au Nord Kivu, province de l'Est de la RDC, qui a encore les séquelles de l'épidémie d'Ebola, les autorités veulent réussir le pari de la prévention de la pandémie du nouveau coronavirus. Les services de migration de la RDC et du Rwanda ont imposé des restrictions de mouvement de population. Les activités touristiques sont aussi suspendues dans le parc de Virunga. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, donne des détails dans ce reportage.
Dès l'annonce du premier cas à Kinshasa, le Nord Kivu a réactivé les mesures de prévention sur tous les points d'entrée de la province à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. Le professeur Jean-Jacques Muyembe, chargé de la riposte contre cette pandémie de coronavirus, appelle tout le monde à la vigilance et précise que les mêmes installations utilisées contre Ebola pourront être sollicitées s'il y a un cas au Nord Kivu.
Nous sommes maintenant les pieds dans l'épidémie, donc nous allons combiner la préparation et la riposte. C'est que nous allons faire à Kinshasa, c'est éviter que la maladie quitte Kinshasa et dans d'autres provinces. Les installations pour Ebola, pour la plupart, vont servir à la surveillance de COVID-19. Nous allons installer ici, à Goma, un laboratoire de pointe pour faire également le diagnostic de coronavirus.
Pour la sensibilisation, les gouverneurs du Nord Kivu pensent que les mêmes stratégies de base qui ont servi pour vaincre Ebola seront aussi évaluées et les bonnes pratiques seront appliquées pour les coronavirus. Carline Zanzuka Sivita, gouverneur du Nord Kivu.
Goma est autant exposé que la simple du monde. Nous sommes reliés avec Kinshasa à 2 heures de vol, mais aussi avec Kigali, c'est 3 heures de route. Nous devons tenir compte de notre fragilité. Nous avons encore un système de santé publique qui ne donne pas les réponses à tous les défis. L'arme que nous avons, la plus utile, c'est la mobilisation de la population. Nous avions réussi à arrêter le virus d'Ebola avec l'engagement communautaire.
Ce matin, les écoles et universités ont renvoyé leurs occupants à la frontière avec le Rwanda au point d'entrée de Goma et Gisenyi. La direction générale des migrations a limité les flux des personnes qui pratiquent le commerce transfrontalier entre Goma et Gisenyi. Les autorités de cette institution exigent la présentation des laissez-passer. Il faut souligner qu'environ 40 000 personnes traversent chaque jour cette frontière. La décision tombe juste après la communication faite par le président Félix Tshisekedi. Au Nord Kivu, les activités touristiques sont aussi suspendues dans les parcs de Virunga depuis ce mercredi. Selon les derniers bilans ce jeudi, la RDC compte 14 cas confirmés, tous à Kinshasa. Le gouvernement congolais vient de prendre plusieurs mesures préventives, entre autres la suspension des vols commerciaux venant des pays les plus touchés. Les attroupements de plus de 20 personnes sont aussi interdits. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Rwanda, les tailleurs fabriquent des masques en utilisant des tissus traditionnels pour répondre à la demande sans précédent créée par la propagation du nouveau coronavirus. Mais les autorités déclarent que ces masques dits kitenge ne sont pas capables de protéger ceux qui les portent du COVID-19. Les explications de Jacques Aristide.
Les habitants de Kigali, la capitale rwandaise, disent que les masques de protection sur lesquels ils comptent pour les protéger contre le coronavirus sont rares. Ils se plaignent également que les masques disponibles sont maintenant hors de prix pour le Rwandais moyen. D'après le ministère de la Santé, le nombre de cas de coronavirus dans le pays est passé de 1 à 7 et comprend un homme de nationalité rwandaise qui n'a pas d'antécédent récent de voyage. Le pays d'Afrique de l'Est a confirmé son premier cas de coronavirus le samedi 14 mars dernier, devenant ainsi l'un des 26 pays au moins du continent africain où l'épidémie s'est propagée. Le gouvernement a inondé Kigali avec des éviers portables pour se laver les mains aux arrêts de bus, dans les restaurants, les banques et les magasins. Les écoles, les universités, les églises et les tribunaux sont fermés dans tout le pays. Certains vols ont été suspendus. Des consommateurs alarmés ont envahi les marchés africains cette semaine, souvent avec des masques et des gants pour faire des provisions alors que le coronavirus se propage sur le continent le plus pauvre du monde. Les prix ont augmenté dans certaines régions, bien qu'au moins un pays, le Rwanda, ait cherché à contrôler les coûts des aliments de base. Alexander Nshimiyimana est un tailleur basé sur le marché principal de Kigali. Il utilise le kitenge, un tissu local coloré, pour fabriquer des masques moins chers. En raison de la pénurie de masques, dit-il, nous avons décidé d'utiliser des matériaux locaux pour les fabriquer afin que les gens puissent faire parvenir le masque à tout le monde. Ces masques en kitenge coûtent environ 50 cents américains, alors que les masques masques conventionnels se vendent en pharmacie jusqu'à 2,50 $. Avec ce virus, nous essayons de nous protéger, de limiter l'infection des gens pendant cette attaque virale. Mais c'est aussi, c'est une sorte d'opportunité pour certaines personnes de gagner de l'argent. C'est aussi une opportunité d'innover, fait remarquer Alexander Inchimi Yimana. Cependant, cette mise en garde des CDC, Centers for Disease Control, ou Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, les CDC affirment en effet que les masques, même ceux achetés dans une pharmacie, ne protègent pas les gens, bien qu'ils puissent ralentir la transmission de la maladie par une personne infectée. D'abord épargnée par le coronavirus qui a frappé la Chine avant de se répandre, les pays africains comme le Rwanda ont connu une flambée de cas ce mois-ci et les gouvernements prennent des mesures drastiques pour enrayer sa propagation. Au moins 30 nations africaines ont maintenant signalé au total plus de 400 cas. Plusieurs gouvernements africains ont fermé leurs frontières, annulé des vols et imposé des conditions d'entrée et de quarantaine strictes pour tenter de contenir la propagation de l'épidémie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Quels sont les effets du nouveau coronavirus sur l'économie mondiale et en Afrique? Les trésoreries de grandes puissances prennent des mesures pour réduire les conséquences de la pandémie, mais les bourses continuent de sombrer. Eddie Isango a joint ici à dans le Maryland un politologue spécialisé dans les affaires et la finance, Jean-François Seznec.
Ça va avoir des conséquences très graves parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de compagnies sont obligées de fermer, même temporairement, mais beaucoup sont obligées de fermer et ce ne sera pas temporaire. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas de cash flow pour continuer à garder leurs employés, ces employés vont être mis à la porte et puis donc ces gens-là n'achèteront plus grand-chose, ce qui va faire une conséquence très grave sur toute l'économie et sur toute l'économie mondiale en particulier. En fait, on pourrait très bien voir que malgré les énormes efforts qui sont faits par les trésoreries des grands pays mondiaux, hein, comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, il va y avoir une crise mondiale économique très grave.
Vous parlez justement de ces mesures que prennent les grandes économies mondiales. En quelques lignes, est-ce que vous pouvez nous en donner les détails, mais en quelques lignes?
C'est pas tout à fait les mêmes descriptions en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on va essayer, le président va envoyer un chèque à tous les citoyens de 1 000 ou 2 000 dollars, on ne sait pas trop, pour essayer de faire passer le cap, si vous voulez, à la plupart des gens qui perdent leur travail. Par exemple, les gens qui sont dans les services, les cafés, les restaurants, etc., ces gens-là ne peuvent plus travailler et ils n'ont pas d'autres moyens de survivre. En France, il y a beaucoup plus de sécurité, si vous voulez, sur l'emploi. Donc l'État va payer ce qu'ils appellent le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum, pendant un certain temps. Mais ici, dans les services, bien sûr, il n'y a ni contrat, ni quoi que ce soit, et les gens travaillent au jour le jour et ils vivent de chèque à chèque, de paiement et de salaire, et ces gens-là vont avoir beaucoup de mal. Même si le président voit 1 000 ou 2 000 dollars, ça aidera un petit peu, bien sûr, mais ça ne les aidera pas très longtemps et ça va augmenter la crise qui arrive très rapidement maintenant.
Malgré ces mesures, les bourses continuent à chuter. Mais pourquoi?
Oui, parce que les gens pensent, beaucoup de gens dans les marchés pensent qu'en fait, on est en chemin pour une très grave récession et ils commencent maintenant à se dire dans les marchés que peut-être on va avoir une dépression comme il y avait eu en 1929. Alors les gens ont très peur, les capitaux fuient, s'en vont et essayent de sortir des actions et du marché des actions pour aller sur les bons d'État, sur les papiers qui sont à peu près sûrs ou en argent liquide, bien sûr, s'ils peuvent.
On a parlé là des grandes économies, mais quelles conséquences y aura-t-il dans les pays pauvres, mais particulièrement en Afrique?
Les conséquences vont être aussi mauvaises qu'ici, aussi importantes qu'ici et peut-être pire parce que beaucoup de pays d'Afrique exportent des produits vers les États-Unis et l'Europe, etc. Et le pouvoir d'achat des Américains, des Européens va diminuer énormément. Donc, si vous voulez, les commodités que vendent les pays africains vont diminuer de prix énormément et ça, tout le monde va souffrir, si vous voulez.
Y a-t-il une recette pour essayer de contourner, en fait, on sait qu'il y a la pandémie, mais pour essayer de contourner tout cela?
Malheureusement, je suis assez pessimiste aujourd'hui. Peut-être que demain, je ne le serai plus, mais aujourd'hui, je suis assez pessimiste parce que je crois qu'on a pris un tournant, si vous voulez, et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ça va prendre quelques mois pour qu'on sente vraiment les conséquences graves. Il faudra plusieurs années pour qu'on se sorte de là, si vous voulez.
C'était Jean-François Seznec de Georgetown University. C'est la fin de cette édition mise en onde par Lionel Gaïma avec Georges Léonard Sagnot, Michel Joseph, Josèle Morissin. Présentation Abdourahman Dia. Au revoir.
Avec vous, Henri Francisque, 18h.